France Inter, franceinter.com.
Les larmes que vous avez versées vous reviendront transformées en perles d'Orient. William Shakespeare, Richard III. Mille ans d'histoire. Quand les hommes ont commencé à pêcher, à ouvrir et à manger des coquillages, ils y ont trouvé des perles. Mais sans savoir de quoi elles étaient faites, ni pourquoi, ni comment elles se formaient. Gardant pendant des siècles le secret de leur fabrication, les perles ont alors inspiré des quantités de légendes. Il y a 2000 ans à Rome, Pline l'Ancien affirmait que les perles étaient engendrées par une goutte de rosée qui se serait introduite dans les huîtres. Des poètes ont imaginé qu'elles venaient des larmes des femmes. « Les larmes que vous avez versées vous reviendront transformées en perles d'Orient », écrivait joliment Shakespeare. Tandis que bien après lui, Henri de Montfrède, en parcourant la mer Rouge, y découvrait une autre légende sur la naissance des perles.
Je suis donc parti pour la mer Rouge, dans la zone vraiment perlière, la zone de pêche. On me conseilla d'aller voir Saïd Ali. Il me raconta la légende des perles. Les perles sont des gouttes de rosée tombées pendant les nuits de lune qui emportent avec elles dans la mer profonde un peu de la lumière de l'astre qui compte notre temps. Les perles, filles de l'eau du ciel et de la lune. Quelquefois elles ternissent et meurent quand une âme errante vient leur ravir leur éclat. Et voilà pourquoi, pendant les nuits chaudes, on voit la mer constellée de phosphorescence, ce sont les petites âmes lumineuses des perles qui tournoient pour l'éternité avec celles des noyés sans sépulture.
Michel Heuzet et Agnès Yatsoura, bonjour. Alors Michel Heuzet, vous êtes gémologue et historienne des bijoux, et vous Agnès Yatsoura, vous avez dirigé le projet d'une exposition magnifique sur les perles qui se tient en ce moment au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Alors bien sûr, les perles ne sont pas des gouttes de rosée tombées de la lune, comme le disait Montfrède, ni des larmes, mais c'est vrai qu'il a fallu attendre des siècles pour savoir à quoi elles ressemblaient, enfin comment elles étaient faites, de quoi elles étaient faites et comment elles se faisaient. Et en attendant, donc, beaucoup de légendes, beaucoup tournent autour d'ailleurs de ces légendes, tournent autour de l'idée de larmes qui se seraient solidifiées, Michel Heuzet.
Ce sont toujours de très très belles légendes et des légendes poétiques. Il faut croire que les femmes doivent pleurer beaucoup puisqu'il reste quand même pas mal de perles. Est-ce qu'au moins on a un profit à pleurer? C'est de savoir qu'on aura au moins un jour des perles. Donc, ça c'est une très belle image. Il faut savoir que cette image effectivement est très ancienne et montre l'analogie entre nos larmes et les perles. Alors l'analogie, elle remonte effectivement dans le passé à propos de larmes. Il faut parler notamment du Japon. Au Japon, on croyait qu'une princesse qui avait été enfermée dans un château parce qu'on devait lui faire épouser non pas son amoureux mais un vieux grincheux riche, a longuement pleuré et ses larmes se sont transformées en perles. Il y a comme ça plein de mythes. Il y en a un très joli aussi en Perse d'un poète Sadi au XIIe siècle qui dit que Vénus elle-même a pleuré. Et lorsque Vénus pleurait, comme toute divinité, tout ce qui tombe du corps d'une divinité ne peut être tombé naturellement et doit être transformé. Et donc les larmes de Vénus se sont transformées en perles.
Alors toutes ces légendes sont beaucoup plus belles que la réalité. Cela dit, la réalité, on a mis beaucoup de temps à comprendre comment se formaient les perles. Michel Heuzet, en fait, c'est un accident des coquillages où elle se trouve. C'est une maladie, en quelque sorte, la perle, ou c'est le produit ou la conséquence d'une maladie.
Oui, en malacologie pure, c'est une maladie. En réalité, c'est un système de protection, de défense. les mollusques, notamment les bivalves, lorsqu'ils s'entr'ouvrent pour respirer, pour se nourrir, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de plancton. Au moment où ils aspirent de l'eau, ils rentrent en même temps souvent des petits vers, des intrus. Ces intrus doivent être, par leur nature, éliminés, notamment les vers. Et il y a un système très performant qui est mis en place. Ce système, il est très simple en soi, c'est que sur la partie externe de la chair des mollusques, il y a des cellules qui s'appellent les cellules épithéliales, qui, une fois qu'elles sont touchées par le cestode, les petits vers, vont se propager. Elles vont se multiplier tout autour de l'intrus et former un sac perlier. Et dans ce sac, petit à petit, progressivement, couche par couche, elles vont envelopper l'intrus. Alors, le grand intérêt de ce système, c'est que si le sac perlier n'est pas bloqué, il peut repartir à la mer. Le but, ce n'est pas de faire un coffre-fort, car il n'y a pas qu'un seul intrus dans la vie d'une perle. L'inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas toujours la faire sortir, ce qui est un grand avantage pour nous. L'autre inconvénient, c'est que parfois, lorsqu'elle le rejette, eh bien, au lieu de sortir du mollusque, elle vient se glisser entre la coquille et la chair, c'est-à-dire pas entre la deux chairs. Et là, la perle va être coincée. Parce que les mêmes cellules, les cellules épithéliales, sont aussi celles qui font la nacre du coquillage. Et une fois que la perle est coincée, elle ne peut plus sortir, puisque les cellules vont progressivement attacher, si vous voulez, par la nacre de la coquille, la perle au coquillage. Et c'est ainsi, juste pour terminer, c'est ainsi que vous avez des perles exceptionnelles à l'exposition, des très grosses perles, qui sont ces perles qui ont été bloquées sur la coquille, qui s'appellent des blisters. Et à l'exposition, vous avez une perle pratiquement grosse comme un poing, qui est au centre, qui forme le buste d'un centaure. Donc ces perles peuvent être devenir énorme ensuite.
Alors ces perles, elles viennent, alors le plus souvent évidemment on pense à des huîtres, hein, certainement, mais j'ai appris aussi en lisant le catalogue de cette exposition que la perle, ça venait pas seulement des huîtres, et qu'il y avait même des moules perlières, Yannès Yatsoura.
Oui, effectivement, on pense toujours aux huîtres perlières. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mollusques marins et tous les mollusques d'eau douce sont susceptibles de faire des perles. Alors c'est vrai que la plupart viennent de bivalves, tout simplement parce que cet intrus dont parlait Michel Heuzé, une fois qu'il est entré dans le bivalve, il a beaucoup plus de difficultés à ressortir que dans un gastéropode. Les gastéropodes sont par exemple les escargots. Les ormeaux, voilà. Donc ce sont les mollusques qui n'ont qu'une seule valve en fait. Hein. Et donc le gastéropode va pouvoir faire ressortir cet intrus plus facilement. C'est pour ça que les perles y sont plus rares. Mais il y en a quand même. Et donc l'exposition justement veut montrer toute cette diversité de mollusques qui sont susceptibles de former des perles.
Alors justement, parmi elles, des mulettes, hein, c'est-à-dire des moules en fait d'eau douce, dont la Vologne était très riche, hein, une rivière française bien connue des Lorrains, où l'on trouvait, qui était grande productrice de perles d'eau douce, hein, qui avait fait la fortune des ducs de Lorraine. Alors, pendant très longtemps, donc, on a été chercher ces perles et les mollusques qui s'y trouvaient dans les rivières, mais aussi au fond de la mer, comme on le fait encore aujourd'hui dans le Pacifique.
Tirés par des câbles les reliant au bateau, les plongeurs ratissent méthodiquement les fonds à moins 30 mètres où reposent les huîtres nacrées. Au début du siècle, la recherche des perles n'était qu'une activité marginale et aléatoire. Car dans la nature, seule une huître sur 20 000 produit une perle fine, un joyau naturel constitué de nacre. Un plongeur gagne 11 francs par huître amené à bord. Ces hommes plongent de 8 à 12 heures par jour. Leur but essentiel, trouver de jeunes coquillages qui pourront sécréter des perles de culture. Les plongeurs de Broome ont donc encore de beaux jours devant eux, même si la mer est infestée de requins et de serpents venimeux.
Hello, hello!
Yeah, Roger, mate,
you're
coming in very faintly, over.
Roger, I can hear you.
Alors, c'était des pêcheurs de perles dans le Pacifique qui utilisaient des moyens dont on ne disposait pas quand la pêche aux perles a commencé. C'est toujours autre chose. D'ailleurs, on a évoqué les coquillages, d'où venaient les perles. Il faut rappeler que c'est forcément dans un milieu, dans de l'eau chaude. On ne trouve pas de perles ailleurs que dans des eaux chaudes.
Alors effectivement, les huîtres perlières ne vivent que dans la zone intertropicale. Ce qui n'est pas le cas des mollusques d'eau douce perlier, puisqu'il y en avait en France. Donc voilà. Mais on n'a aucune chance de trouver une perle dans une huître que nous dégustons sur nos côtes.
Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins dangereux qu'autrefois, quand on allait chercher des perles, notamment, et des huîtres perlières, notamment notamment en mer Rouge, par exemple, qui était très riche en huîtres perlières. On a entendu d'ailleurs le chiffre, il y a une perle pour quelque chose comme un millier d'huîtres à peu près. Je ne sais plus très bien ce qu'on a entendu, mais c'est extrêmement rare. Ces perles, ce qu'on appelle des perles fines, en fait, c'est-à-dire qui sont, qu'on trouve à l'état naturel dans les huîtres.
Oui, les conditions étaient très difficiles. Alors, il faut bien voir qu'il y avait des saisons aussi pour la pêche et que on commençait très jeune, on commençait vers 7 ans à travailler sur les bateaux. À 15 ans, on plongeait. Et ce qui est terrible à dire, c'est qu'on attendait on souhaitait que les oreilles, les tympans soient percés, crevés, ce qui est extrêmement douloureux
parce qu'on est
en totale apnée parce qu'on disait que les performances étaient meilleures. Mmh. Alors, vous parliez du golfe Persique, on plongeait entre 25 et 50 mètres quand même, des enfants de 15
ans. C'est énorme. Alors, femmes aussi. Au Japon, c'était les femmes qui étaient affectées à cette tâche.
Oui, et même des femmes âgées. Mais ça, c'est vraiment, les amas, c'est vraiment des exceptions. Mmh. En général, en plus, notamment en Inde, on des conditions particulièrement difficiles. Et ensuite, c'est un semi-esclavage. Parce que ce qui se passait, c'est qu'on louait entre guillemets les hommes, parce que les hommes qui plongeaient, on leur avançait de l'argent pour pouvoir vivre et ensuite ils devaient rembourser en fonction de la pêche. Mais la pêche n'étant jamais assez bonne pour eux, les dettes qui étaient engagées étaient transmises de génération en génération, c'est-à-dire que les enfants naissaient avec la dette des parents.
Vous parlez d'esclavage, mais alors il y avait aussi, on avait utilisé les conquistadors qui avaient découvert des perles en Amérique du Sud, notamment dans le golfe du Venezuela, enfin auprès du Venezuela, employés des Indiens, et il y avait une telle mortalité que Charles Quint aurait écrit ceci, aurait donné cet ordre: si l'on ne peut préserver les Indiens et les Noirs du danger de mort, que l'on cesse la pêche des perles, car nous apprécions beaucoup plus la conservation de leur vie que l'intérêt que peuvent nous apporter ces perles.
Alors c'est un vœu pieux parce que très concrètement, les Portugais ont vidé les bancs du Venezuela. Et très concrètement,
les Espagnols, plutôt.
Les Portugais et les Espagnols, parce que lorsque Christophe Colomb arrive là-bas, les indigènes portaient tellement de perles et d'or qu'il avait dit que là-bas, ça ressemblait à une nouvelle Venise. Et de nouvelle Venise va venir Venezuela. C'est-à-dire que cette richesse d'or et de perles qui était si caractéristique et des perles qui avaient été accumulées depuis des siècles, on les a vidées. C'est sûr qu'aujourd'hui, au Venezuela, à part des souvenirs comme île des perles, Islas de Margaritas, puisque Margarita veut dire perle en grec, il ne reste plus grand-chose.
Alors justement, puis ça a été aggravé par la pêche au scaphandre, beaucoup moins dangereuse pour les pêcheurs, mais beaucoup plus pour les bancs d'huîtres qui ont été littéralement décimés, y compris d'ailleurs pour les huîtres, enfin pour les perles d'eau douce, c'est-à-dire les moules perlières, et que finalement, les perles sont devenues de plus en plus rares, de plus en plus chères et de plus en plus recherchées par les grands de ce monde.
Trois reines l'ont portée, cinq maîtresses l'ont eue.
Elle est très belle.
Elle est splendide.
Elle est unique.
Voici, messieurs, voici cette perle merveilleuse. Elle a appartenu au pape Clément VII, à Catherine de Médicis, à la reine d'Écosse. Elle doit finir ses jours
à Rome,
en Angleterre,
ou bien au musée du Louvre.
Mesdames, messieurs, la vente commence aux conditions habituelles.
Nous vendons le numéro 5 du catalogue. Une perle poire pesant 192 grains. Perle que nous croyons unique, inestimable. Nous commençons à 50 000.
50 000, on commence.
55 000.
60.
60. 65 000.
220 000.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une perle, Agnès Yatsura? Est-ce que c'est sa taille, comme celle que l'on voit justement dans votre exposition? Là, on a entendu le poids, je crois, exprimé en grains. Tout le monde ne sait pas nécessairement ce que c'est qu'un grain. Mais est-ce que c'est ça qui fait la valeur d'une perle?
Alors, le grain, c'est l'unité de mesure des perles fines, qui vaut en fait un quart de carat. Et alors, il n'y a pas que la taille, il n'y a pas que le poids, il y a aussi bien sûr la qualité de sa surface, si elle a des défauts, si elle a des petites piqûres ou si elle est parfaitement lisse. Il va y avoir aussi le lustre. Alors le lustre, c'est la brillance de surface, en fait, qui est due à la perfection de l'arrangement des cristaux à la surface de la perle. Si les cristaux sont parfaitement bien arrangés, si on regarde par exemple le reflet d'un projecteur ou d'une fenêtre sur une perle qui a un très beau lustre, il va être extrêmement précis, extrêmement net, et plus ce reflet est flou, moins le lustre est beau. Et il y a aussi une qualité essentielle qui est plus complexe à percevoir, c'est l'orient.
L'orient, voilà, c'est ça.
Alors l'orient, qui est une qualité presque magique, en fait, il s'agit tout simplement, et d'un point de vue scientifique, de la décomposition de la lumière dans les couches, à l'intérieur des couches de cristaux d'aragonite, à l'intérieur de la perle. Et en fait, plus les cristaux, de la même façon que pour le lustre, plus les cristaux sont fins, bien arrangés et parfaitement organisés les uns par rapport aux autres, plus la décomposition va être importante et plus on va avoir à la remonter à la surface cette lumière qui va donner comme des sortes de petits arcs-en-ciel et ça va donner une sorte d'irisation à la surface et c'est ça qu'on appelle l'orient. Alors évidemment toutes les perles n'en ont pas, il y en a plus, l'épaisseur de nacre est importante et plus les cristaux sont beaux, plus l'orient va être présent. Voilà, alors bien évidemment, il y a la couleur, hein, puisqu'on avait traditionnellement les.
Oui, elles ne sont pas toutes blanches.
Elles ne sont pas toutes blanches, même si c'est le premier imaginaire qui arrive. Bien sûr, il y a aussi, maintenant, avec les perles de culture, on a beaucoup de perles très sombres, des perles noires, des grises, qui viennent de Polynésie française. Et puis, nous avons aussi.
La
des
forme,
perles...
elles ne sont pas toutes rondes. Hein.
Ah non, elles ne sont pas toutes rondes.
Il y a aussi, bien, dans votre exposition.
Bien sûr, alors elles sont même exceptionnellement rondes, finalement, oui. Parce que chaque perle va raconter un petit peu l'histoire de l'huître qui l'a portée. Et il y a forcément des accidents, des moments où elle va avoir un stress, où elle va avoir un problème d'alimentation. Et donc, tout ça va jouer sur la forme de la perle. Et le plus souvent, on a des perles de forme très irrégulière. Alors, il y a la perle poire, qui est aussi une autre perfection. Mm-hmm. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les perles baroques, c'est-à-dire des formes tout à fait inattendues, qui peuvent justement faire naître des inspirations intéressantes.
Alors les perles qui servent d'attributs du pouvoir, parlons un peu de leur histoire quand même, quand elles deviennent des bijoux très recherchés par les rois, les princes, on les voyait sur les couronnes, c'est vraiment un attribut du pouvoir, de la puissance royale, peut-être Michel Heuzé, il faut peut-être rappeler ça, les perles... bijoux.
Les perles bijoux sont un attribut du pouvoir par leur rareté et leur cherté, et elles le sont toujours. Mmh. Je voudrais juste vous dire le prix extraordinaire d'une perle qui a été vendue il y a 2 ans, la Régente, 2 millions d'euros.
Qui avait appartenu à Napoléon, je crois.
La Régente qui a été offerte par Napoléon à Marie-Louise. Et qui a été remontée pour l'impératrice Eugénie par donc Napoléon III. C'est un prix hors du commun.
Oui.
Et ce qui montre bien que les nouveaux rois sont aussi toujours présents parce que effectivement nous avions le plus bel écrin, donc nous avions les plus belles perles en France. Donc c'est un bien, un attribut du pouvoir. Et il faut savoir que lorsque nous avons vendu cette perle, en 1887, lorsque les joyaux de la couronne sont partis, la perle est allée en Russie. Donc il faut un pouvoir financier. Et de Russie, c'est parti aux États-Unis, autre pouvoir financier. Ensuite, c'est parti au Moyen-Orient. Et cette pierre vient d'être acquise par la Chine. Vous voyez que le pouvoir est lié aux puissances financières aussi aujourd'hui.
Et aux bijoux en général, il n'y a pas que les, il y a pas que les perles, il y a aussi les pierres précieuses. Mais s'il y a aussi, elles ont une vertu, une autre vertu que celle de devenir un bijou, un instrument de pouvoir. Vous évoquiez, je crois, l'utilisation que Cléopâtre faisait des perles.
C'est une vertu de séduction. Oui. Ça, c'est un attribut. Vous voyez, les femmes ne font pas que
mais
pleurer.
Mais qu'est-ce qu'elles faisaient avec ces perles?
Mais c'est une vertu de séduction et d'ambition aussi, séduction, parce que effectivement l'histoire est fort célèbre. Cléopâtre, qui était proche de la mer Rouge, donc et proche du golfe Persique où sont pêchées parmi les plus belles perles, avait 2 grosses poires. Et pour Marc-Antoine, pour séduire Marc-Antoine, elle lui a proposé de lui servir le repas le plus cher qui puisse exister. Et elle a servi beaucoup de plats extraordinaires, mais à la fin du repas, elle lui a servi elle a pris une de ses perles, elle a demandé à une de ses servantes de la dissoudre dans du vinaigre, ou du vin, on va dire, et elle l'aurait servi à Marc-Antoine. Donc voilà comment faire, parfois, pour séduire les hommes.
Alors, donc, pouvoir thérapeutique, on le voit. Alors, les perles ont connu des périodes plus ou moins fastes, elles se sont démocratisées, notamment au XIXe siècle, si bien d'ailleurs que les bancs ont fini par disparaître et que on a, ayant appris comment se former les perles, on a commencé à en fabriquer ce qu'on appelle des perles de culture que l'on produit essentiellement dans le Pacifique Sud. Philippe Marquet, éleveur de perles dans l'archipel des Tuamotu, au micro de France Culture en 1988.
Après la nacellerie, une fois que la nacre a atteint sa taille de greffe, on la met sur la plateforme de pré-greffe. Et là, elle va attendre que le greffeur veuille bien s'occuper d'elle, puis lui insérer un petit bout de nacre dans la poche pour faire une perle. Là, c'est l'aboutissement de la nacre, en fait. Et c'est la naissance de la perle, voilà. Quand le greffeur va ouvrir la nacre qu'il a choisi pour son greffon, il va regarder la couleur du manteau de la nacre. Bon, si le manteau a une couleur qui lui convient, il va prendre ce manteau, donc faire son greffon. Et c'est le greffon qui, collé au nucléus, si tu veux, va donner la couleur, à travers la couche nacrée, va donner la couleur que la perle va avoir à la fin. Alors ça peut aller du noir, noir-noir, en passant par le noir bleuté. Chaque greffeur a sa couleur.
Agnès Yatsura, qu'est-ce qui distingue une perle de culture comme celle que l'on produit dans cet atoll du Pacifique des perles fines qui ont finalement disparu? Presque toutes les perles fines aujourd'hui sont celles qui existaient déjà il y a longtemps, mais tout ce qui est produit actuellement, ce sont des perles de culture.
Oui, alors la perle de culture, c'est exactement le même principe que la perle fine, sauf qu'on n'attend pas le hasard. Et simplement, on va provoquer cet accident dont parlait Michel Heuzé au début en introduisant dans l'huître, en introduisant un noyau. Et qui va servir exactement de la même façon de base et va être aussi enrobé de couches successives de nacre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les perles de culture sont bien évidemment beaucoup moins onéreuses que les perles fines, puisqu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Mais elles ont aussi, alors on parlait d'usage thérapeutique tout à l'heure des perles fines, mais les perles de culture ont aussi un usage thérapeutique, alors pas seulement. Pas précisément les perles, mais disons les mollusques qui les ont portées, en tout cas, sont utilisés actuellement. Le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle ont déposé des brevets pour utiliser la poudre de nacre et les morceaux de nacre comme implants, puisqu'on a découvert en fait qu'il y a une compatibilité moléculaire entre l'os et la nacre. Et donc, ces implants servent en milieu hospitalier, c'est encore au stade d'expérimentation, mais à stimuler la régénération cellulaire, aussi bien des os que de la peau. Par exemple, c'est utilisé pour les grands brûlés qui vont, de cette façon, pouvoir être guéris beaucoup plus facilement. Et c'est aussi utilisé de façon plus simple sur une cosmétique quotidienne. Voilà, mais c'est très important.
C'est extraordinaire.
Voilà, c'est un autre usage des perles et... Des mollusques qui les portent.
Et des perles de culture dont vous dites aussi qu'elles préservent l'environnement. En tout cas, leur élevage.
Oui, voilà. C'est-à-dire que les perliculteurs ont besoin d'une eau d'une qualité parfaite pour élever leurs huîtres. Et donc, ils se font défenseurs de l'environnement. Et les fermes perlières deviennent des endroits où la biodiversité reprend ses droits, puisqu'on y trouve des espèces qui avaient quasiment disparu, qui retrouvent à cet endroit un milieu correct de vie.
Alors, perles de culture qui apparaissent au début du XXe siècle, en tout cas en grande quantité, grâce à un japonais qui s'appelait Kokichi Mikimoto, et une production de masse qui démocratise les perles, mais sans décourager les bijoutiers ou les plus grands couturiers, comme celui que l'on entend ici au micro de Liselina en 1959.
La collection est présentée sous le signe de la perle océane. Ce qu'est la perle océane, je préfère laisser le créateur vous en parler lui-même. Pierre Balmain.
La perle océane est d'abord une perle extraordinaire qui est la première perle cultivée en Australie et que j'ai eu l'honneur de montrer à Paris le premier. C'est une énorme perle qui pèse 84 grains.
En tout cas, ce lancement de la perle océane va certainement redonner une vogue à la perle tout court, à la perle de culture, à la perle de fantaisie. Qui sont toujours d'ailleurs à la mode.
Mais vous savez que les perles, c'est Giraudoux qui disait une chose merveilleuse. dans La Folle de Chaillot, elle dit à un certain moment « Passe-moi mes perles ». Et son amie, qui était aussi une pauvresse, lui dit « deux perles, c'est du toc ». Et l'autre lui répond comme une reine « Mais chacun sait que les perles deviennent vraies sur les femmes qui les portent ».
Sans se venger de perles sur votre adorable poitrine, qui me font siffler tous ces merles à l'âme malandrine.
Sans vos bijoux, madame, c'était Adamo, une perle de la discothèque de Radio France. Est-ce que la perle aujourd'hui est aussi à la mode qu'elle pouvait l'être du temps de Balmain que l'on vient d'entendre? On dit parfois que la perle, bah, c'est un bijou un peu ringard. Michel Osé.
La perle devient de plus en plus à la mode. Il y a des grandes périodes comme ça dans l'histoire du bijou, que ce soit l'époque romaine et byzantine, que ce soit l'époque de la Renaissance. Et maintenant, vous êtes en pleine évolution de la perle. Évolution de la perle parce que vous avez toujours un marché de la perle fine qui existe, même s'il se régénère peu dans le sens que ce sont les perles qui sont déjà sur le marché, qui sont remises sur le marché. Mais vous avez très très beaux bijoux anciens qui perdurent et il y en a très beaux exemples à l'exposition.
Ah oui, il y en a. J'ai remarqué une chose, c'est pas facile de faire un bijou. Et on voit dans cette exposition un collier qu'on a mis 2 ans à pouvoir fabriquer parce qu'il faut évidemment assortir des perles de même qualité. Même si ce sont des perles de culture, c'est pas évident.
Même en perles de culture, oui, c'est ça qu'il faut bien voir. Même qualité, cela veut dire que il y a un travail sur la taille des perles qui doivent être des chutes parfaites. Il y a une taille sur la couleur. Par exemple, les blanches ne sont pas que blanches. Elles sont blanches avec un fin travail rosé, une fine nuance bleue, une fine nuance verte. Et c'est encore plus difficile avec ces nouvelles perles qui viennent de plus en plus à la mode, les perles de Tahiti, parce que là, vous avez beaucoup de couleurs. Et ce qui arrive encore plus, la dernière tendance qui arrive à la mode, ce sont les perles gold. Les perles gold de Philippines et d'Australie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a dans l'évolution du bijou aujourd'hui, c'est que vous avez plusieurs tendances. Vous avez des tendances qui se tournent vers le passé dans ce sens qu'on refait des animaux, des personnages, comme le fait Lawrence Boehmer, avec des perles baroques. Hein. La perle parole qui a pris une cote particulière à la Renaissance, c'est-à-dire qu'il valait vraiment plus cher sur le marché de Barheim.
C'est-à-dire difforme, enfin pas difforme, mais de curiosité, forme irrégulière. Oui.
Vous pensez, par exemple, l'exposition d'Archiboldo en ce moment à Paris, montre très bien ce goût à la cour des Habsbourg, des difformités, des curiosités. Ben, la perle baroque, elle participe à ce goût de curiosité, elle a été mise en valeur. Et puis, donc, aujourd'hui, on revient aussi vers la perle baroque. Et puis, une autre tendance qui est, vous dites classique, le bijou. Effectivement, un petit collier de perles peut paraître classique, mais on a la
pas
chance d'avoir...
Voit, hein, dans cette exposition.
Voilà, on a la chance d'avoir des gens qui ont un immense talent, notamment Daniela Baumgartner, qui d'un petit collier vous transforme quelque chose de complètement moderne. C'est-à-dire qu'elle coupe le collier en deux, elle coupe le collier en trois, et quelque chose qui devient beaucoup plus fluide et qu'il faut absolument voir.
Autrement dit, elle a de l'avenir. On dit que c'est plus fragile que les pierres précieuses, les perles. C'est pas tellement vrai. Je vois dans cette exposition des fossiles qui ont 200 millions d'années. Il y avait des perles bien avant que les hommes ne les utilisent.
Oui, bien sûr, puisque tous les mollusques, depuis que les mollusques existent, sont susceptibles de faire des perles. Nous présentons effectivement des perles qui sont encore belles, qui ont 50 millions d'années. Et alors, c'est fragile. Disons que ça doit être conservé dans des conditions particulière, dans des conditions d'hygrométrie suffisantes, de façon à ce que cette matière ne s'altère pas.
Merci Agnès Yatsoura et Michel Osé. Pour en savoir plus, je recommande la très belle exposition dont nous avons parlé, Perles, une histoire naturelle, qui a lieu jusqu'au 10 mars prochain au Muséum d'Histoire Naturelle dans la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. À lire aussi le catalogue de cette exposition, coédité par la Réunion des Musées Nationaux et les éditions du Muséum. Vous avez pu entendre un extrait du film Les Perles de la Couronne de Sacha Guitry, édité en cassette VHS par Canal Plus Vidéo, ainsi qu'un extrait de l'émission Thalassa, Broom, la perle des antipodes, diffusée sur France 3 en octobre 1990. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Arnaud Caillé et Cédric Lalanne, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, Simone de Beauvoir.